Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mets ton doigt ici et vois mes mains. Approche aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ces paroles de notre Seigneur à l'apôtre Thomas nous invitent à nous approcher nous aussi de Jésus à notre tour pour contempler ses plaies. Si notre Seigneur a voulu garder les cicatrices de sa passion après sa résurrection, ce n'est pas parce qu'il était incapable de les faire disparaître de son corps glorieux, c'est parce que ces plaies ont pour lui et pour nous une signification qui doit rester pour toujours, un rôle à jouer qui ne s'est pas achevé le vendredi saint. Saint Thomas d'Aquin, à la suite des pères de l'Église, trouve de nombreux motifs à la persistance des plaies de la passion sur le corps de Jésus ressuscité. Le premier motif est de faire connaître à jamais le triomphe de sa victoire. Saint Augustin dit que même un roi de cette terre, revenant des combats où il a assuré le triomphe de son peuple, aime à garder les cicatrices des blessures qu'il a reçues pour son peuple. Au ciel, d'ailleurs, après la résurrection générale, non seulement nous contemplerons les plaies glorieuses de notre Sauveur, mais nous verrons aussi dans les corps des martyrs les cicatrices qu'ils ont reçues pour le nom du Christ. Ce ne sera pas chez eux une difformité, dit encore saint Augustin, mais un honneur, et en eux resplendira une beauté qui ne sera pas celle du corps tout étant dans le corps, mais celle de la vertu. C'est le fait d'être des signes de vertu qui donnera à ces cicatrices une beauté spéciale, dit saint Thomas. La deuxième raison pour laquelle notre Seigneur a voulu garder les stigmates de sa passion sur son corps ressuscité, allant jusqu'à demander à l'apôtre Thomas de les toucher, c'est pour raffermir la foi de ses disciples. Notre Seigneur avait enseigné pendant 3 ans. Il avait prédit qu'il serait mis à mort par ses ennemis, mais qu'il ressusciterait le 3e jour. S'il n'était pas ressuscité, cela aurait enlevé toute crédibilité à sa doctrine. Mais voilà, Thomas avait devant lui Jésus ressuscité, non pas une vision, une sorte de fantôme, mais le vrai Jésus dont il pouvait toucher le corps. Notons ici que la spiritualisation du corps après la résurrection n'est pas une impossible transformation du corps en esprit. Le corps reste matériel, on peut le toucher, mais il est tellement dominé par l'âme glorifiée qu'il ne peut ni souffrir, ni être malade, ni encore moins mourir. Attention quand même, ce n'est pas le fait de mettre sa main dans les plaies de Jésus ressuscité, qui a donné la foi à Thomas. Sinon la foi serait quelque chose de purement naturel, le simple fruit d'une constatation sensible. En mettant ses mains dans les plaies de Jésus ressuscité, l'apôtre Thomas a eu la preuve que celui qu'il avait devant les yeux était bien le même que celui qui avait été crucifié il y a quelques jours. Alors, il pouvait faire un acte de foi dans tout l'enseignement de notre Seigneur. Croire en ces mystères de la vie de Dieu et du plan divin sur le monde qu'aucune intelligence humaine n'aurait été capable de découvrir par elle-même. Comme le dit saint Grégoire le Grand, Thomas vit une chose et il en crut une autre. Il vit un homme et il confessa qu'il croyait en un Dieu. En permettant le doute de son apôtre et en lui faisant constater la réalité de sa résurrection, notre Seigneur donnait à tous les fidèles jusqu'à la fin du monde la confirmation la plus solide de tout son enseignement. Le troisième motif pour lequel notre Seigneur a voulu garder ses plaies sur son corps ressuscité, c'est un motif de miséricorde. Ses plaies servent à sa médiation. Il a voulu porter dans le ciel les blessures qu'il avait reçues pour nous, dit saint Ambroise, pour pouvoir montrer sans cesse à Dieu son Père le prix de notre rachat. Sur le corps de Jésus glorieux, ses plaies sont au ciel une supplication silencieuse, continuelle, pour notre salut. Elles disent au Père, « Voyez, Père, combien ces âmes m'ont coûté. Vous ne pouvez pas me les refuser. » Pour nous, les plaies de notre Seigneur sont donc la plus grande source d'espérance. Signe de sa victoire, confirmation de notre foi, source de notre espérance, les plaies glorieuses de notre Seigneur sont enfin le témoignage perpétuel de son amour. Pour dire l'amour du Sauveur envers nous, pourquoi recourir aux paroles, dit saint Ambroise ? Nous avons chose plus éloquente, ce sont ses blessures. Je les vois comme des roses qui s'épanouissent sur ses mains et sur ses pieds, dit saint Bernard. Elles me rappellent d'atroces souffrances, mais il y a conflit entre la souffrance et la charité pour savoir qui l'emporte en nécessité, et l'une fait mieux ressortir l'autre. Le cœur de la passion, son âme, c'est la charité qui brûlait dans le sacré cœur de Jésus et qui le poussait à se livrer à la souffrance en dépassant sans proportion tout ce que la nature humaine est capable de souffrir. Plus que les clous, c'est l'amour qui retenait Jésus sur la croix, dit sainte Catherine de Sienne. Et par ses bras grands ouverts, il accueille tous les pécheurs qui viennent à lui, quel que soit leur péché. Tout au long des siècles, les âmes saintes seront attirées par les plaies de notre Seigneur. Elles y apprendront à la fois à avoir une vraie contrition de leurs péchés qui ont causé ces blessures et un amour toujours plus grand pour celui qui a souffert à ce point pour nous. Mais avec le temps, c'est surtout la plaie du côté qui retiendra l'attention. Le Saint-Esprit fera comprendre aux âmes que si notre Seigneur a permis l'ouverture de son cœur par la lance du soldat, ce n'est pas seulement pour qu'en sorte du sang et de l'eau, symbole des sacrements de l'Église, c'est aussi pour que nous y entrions. Votre côté a été transpercé, dit saint Bernard, afin que la porte qui conduit jusqu'à votre cœur nous fût ouverte. Votre cœur a été blessé, afin qu'en lui nous puissions nous reposer, abrités contre tous les troubles. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter dans ce cœur. Chers fidèles qui nous écouterez de loin, parce qu'on vous oblige à rester confinés chez vous, nous vous avons trouvé un lieu de confinement. Vous pouvez tous rentrer sans aucun risque, quel que soit votre nombre. C'est le Sacré-Cœur de Jésus. L'âme qui se repose uniquement dans ce divin cœur, écrit un saint prêtre, possède une paix qui surpasse tout sentiment et que tous les hommes et les démons ensemble ne pourraient troubler. Ainsi, demeurer dans le cœur de Jésus sans en sortir, c'est être toujours content. Hors de cet aimable cœur, on est toujours inquiet. Entrons donc en pensée dans le cœur de Jésus. C'est là surtout que l'âme peut franchir les étapes décrites par les auteurs spirituels pour arriver à l'union à notre Seigneur. Détachement du péché d'abord, vie purgative. C'est surtout le cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés au jardin de l'agonie, qui nous donnera une parfaite contrition de nos fautes, avec un ferme propos de faire tous nos efforts pour cesser de tant l'offenser. Imitation de Jésus-Christ, vie illuminative. Mais si la vie chrétienne consiste à quitter le péché, c'est pour pouvoir imiter celui qui est venu sur terre pour se faire notre modèle, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le cœur de Jésus que nous apprendrons à accomplir nos devoirs quotidiens et à accepter les épreuves de la vie par amour. Union de volonté avec Jésus, vie unitive. Enfin, entrons dans le cœur de Jésus pour ne plus faire qu'un avec sa volonté. C'est en cela que réside la perfection chrétienne. Correspondre à tout instant à la volonté de notre Seigneur dans l'accomplissement de nos devoirs quotidiens. Et aussi dans nos rapports avec le prochain. Vouloir pour notre prochain tout le bien que notre Seigneur veut lui faire par notre intermédiaire. En un mot, aimer le prochain avec le cœur de Jésus. Demandons cette grâce au cours de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.